Bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Charline et à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France en compagnie ce soir de la grande historienne Mona Ozouf. Historienne, mais pas seulement, nous le verrons. À 19h20 au téléphone sonne, 75 000 morts évitables chaque année. Le tabac tue plus de 200 personnes chaque jour en France. Comment arrêter le massacre? On en parle à l'occasion de la journée mondiale sans tabac. Alors si vous voulez arrêter de fumer ou si vous souhaitez témoigner parce que vous avez réussi à arrêter ou pas, eh bien vous nous appelez dès maintenant au 01 45 24 7000, le standard est déjà ouvert. Et tout de suite le journal de 18h. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Des policiers jugés, les gilets jaunes saluent l'engagement du procureur de Paris à enquêter sur les violences entre forces de l'ordre et manifestants, même si certains doutent que justice sera faite. Eux subissent les foudres de leur école en Vendée avant le jugement devant un tribunal. Trois étudiants qui s'en étaient pris à un stand de militants LGBT sont exclus de l'Institut catholique de Vendée. La sécu espagnole traîne en justice Deliveroo, l'entreprise de livraison de plats à vélo, car selon elle, les livreurs ne sont pas de vrais indépendants. Deliveroo doit plus d'un million d'euros de cotisations sociales. L'Algérie manifeste toujours contre le système au pouvoir, malgré le ramadan, malgré aussi les arrestations préventives. On verra également quel est le plan du gouvernement pour taxer les lingettes que l'on utilise partout à la maison. Notre conseil culture du week-end, c'est une BD sur l'histoire du rhum, la boisson. Et puis la température grimpe, c'est la météo du week-end estival. Le point complet avec Sébastien Léas à la fin de ce journal.
France Inter. Et pour commencer, pas d'impunité pour les policiers.
À quelques heures de nouvelles manifestations de gilets jaunes, les mots du procureur de Paris sont lourds de sens. Rémi Hetz, dans un entretien aux Parisiens, assure que les agents mis en cause pour des violences contre les manifestants seront renvoyés devant un tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. 174 enquêtes ont été confiées aux inspections générales de la police et de la gendarmerie. 57 sont déjà clôturées. Le parquet doit décider d'éventuelles poursuites. Bonsoir Mathilde Dehimi.
Bonsoir Amélie.
Vous avez pu joindre Jérôme Rodriguez, le gilet jaune éborgné le 26 mars dernier, est cité par le magistrat.
Cité comme l'un des 8 dossiers qui ont justifié l'ouverture d'une information judiciaire. Si les policiers sont auteurs de violences illégitimes, dit le procureur de la République de Paris, ils seront renvoyés devant le tribunal correctionnel. Jérôme Rodriguez prend acte, se dit satisfait, mais réservé tant que l'enquête n'ira pas au bout.
J'ai bon espoir pour la simple et unique raison qu'on n'a pas attendu le procureur pour faire ce qu'il a dit hier. Ça fait déjà 3 mois que nous-mêmes, avec mon avocat, nous avons porté plainte auprès d'un juge d'instruction parce que ça n'avançait pas auprès de la police des polices. Donc c'est de la pure communication et en ce qui me concerne en tout cas mon dossier, lui-même n'a strictement rien fait parce que nous-mêmes nous avons pris les devants. Aujourd'hui, les policiers violents et ceux qui violentent les manifestants se doivent de payer au titre de citoyens de par leur responsabilité face à la justice. C'est comme ça. Je ne vais pas pleurer sur leur sort, genre nous on est en bout de chaîne, d'accord? Ils ont qu'à savoir utiliser les armes et éviter de tirer en pleine tête et de mutiler les gens.
Sur la responsabilité des policiers, leurs syndicats n'ont pas le même avis. Le ton du procureur est extrêmement mal perçu dans nos rangs. On jette les policiers en pâture, dit Loïc Travers d'Alliance. La justice prend une tournure politique, commente Unité SGP Police FO. Des syndicats qui, eux, mettent en avant les ordres de leur hiérarchie. Aucun policier ou gendarme n'a été pour l'instant mis en examen.
Merci Mathilde Dehimi. Les appels à manifester sont peu nombreux en plein week-end de l'Ascension. 29e samedi de mobilisation. On apprend à l'instant que dans le procès du meurtre de Sophie Toscan du Plantier, eh bien le Britannique Yann Bellet vient d'être condamné à 25 ans de réclusion. Ce matin, le procureur avait demandé 30 ans de prison pour ce crime atroce, avait-il dit. À Lyon, le suspect de l'attentat au colis piégé devait être présenté à un juge antiterroriste cet après-midi pour être mis en examen. A priori, le jeune homme algérien est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il y a une semaine tout juste, la bombe a blessé 14 personnes selon un dernier bilan. Exclus, 3 étudiants de l'Institut catholique de Vendée, lycée, sont bannis de l'école pour avoir agressé des militants du centre LGBT local. Les faits remontent à la mi-mai à La Roche-sur-Yon, pas dans les locaux de l'école, mais la direction estime, Marc Bertrand, que sa réputation a été attaquée.
La direction de l'école s'appuie sur son règlement intérieur. Tout étudiant qui se rend coupable de troubles à l'ordre public, susceptible de nuire à l'image de l'ICES, pourra être renvoyé, dit le texte, même si les faits ont eu lieu en dehors de l'école. L'ICES exclut donc 3 étudiants sur les 13 qui s'en sont pris au stand LGBT. 9 écopent d'une exclusion avec sursis et de travaux d'intérêt général. Un dernier s'en tire avec un blâme. L'école était pressée de réagir après le tollé provoqué par l'agression sur les réseaux sociaux. Mais elle va moins loin que le parquet de La Roche-sur-Yon. Dans l'enquête pénale, total, 12 des 13 étudiants sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Certains pour violence, pour vol et dégradation d'un drapeau LGBT. Et tous pour avoir scandé « homopholie, ça suffit ». Ce que le parquet a qualifié d'injure publique à caractère homophobe.
Marc Bertrand. Un feuilleton sans fin, celui de Vincent Lambert. Le gouvernement a déposé un pourvoi en cassation aujourd'hui pour tenter de faire annuler la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait ordonné la reprise des traitements de ce patient tétraplégique en état végétatif irréversible depuis 10 ans.
Un autre procès très suivi en Espagne, celui de l'ubérisation du travail.
Et sur le banc des prévenus, Deliveroo, la société britannique de livraison de repas à domicile. Deliveroo est poursuivi par la sécurité sociale et espagnole. Elle l'accuse d'avoir fait travailler plus de 500 livreurs comme faux indépendants. Elle réclame 1 200 000 euros de cotisations impayées. Audience suivie à Madrid par notre correspondant Mathieu de Taillac.
Une visite de l'inspection du travail et 531 livreurs à vélo ont vu leur statut transformé. D'auto-entrepreneurs, ils sont devenus officiellement salariés. La sécurité sociale réclame 1 200 000 euros de cotisations sociales non versées à l'entreprise qu'elle considère être leur employeur, l'application Deliveroo spécialisée dans la livraison de repas de restaurants chez les particuliers. Deliveroo se défend en disant que les riders, comme elle appelle les livreurs, sont indépendants. Ils travaillent au rythme qu'ils souhaitent, acceptant ou refusant les commandes, dit l'entreprise. Eux et la sécurité sociale rétorquent qu'il existe une relation hiérarchique, qu'ils ne peuvent travailler sans l'application et qu'ils se voient assigner des franges horaires qui dépendent notamment de la qualité de leur travail, voire de leur docilité. Ce procès se tient dans un tribunal régional à Madrid. La décision ne fera pas encore jurisprudence, mais elle ouvre le bal d'une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Après Madrid, les livreurs de Barcelone et de Valence attendent aussi d'exposer leurs arguments devant la justice. Madrid, Mathieu de Taillac, France Inter.
À l'étranger encore, on n'en parle plus beaucoup, mais les Algériens continuent de manifester le vendredi. Ils protestent toujours contre l'élection présidentielle prévue le 4 juillet. Cornaqué par l'ancien pouvoir, l'appareil toujours en place. Seulement 2 candidatures ont été déposées pour l'instant, même pas sûres d'être validées par le Conseil constitutionnel. Écoutez ce qu'en dit Nassira Dutour, la porte-parole du collectif des disparus en Algérie. Elle est de toutes les manifestations.
Pour moi, le 4 juillet, c'est pas une échéance. Moi, je ne peux pas...
Il n'y aura pas d'élection.
C'était pas possible d'aller aux élections. Le jour du 4 juillet, il y aura tout le monde dans la rue. Il n'y aura pas d'élection. Tout le monde sera dans la rue, non pour aller voter, mais pour dire non aux élections. Nous ne voulons pas des élections dans l'état actuel des choses. Nous voulons des élections libres et démocratiques. Nous voulons aller aux urnes, mais pouvoir voter sur le candidat de notre choix, pas du candidat du choix des militaires. On veut un système civil. Nous voulons pouvoir choisir nos candidats nous-mêmes. Le principal slogan, c'est « Yitnahaouga ». C'est, si je traduis mot à mot, « ils s'enlèvent tous ». Donc tous doivent partir. Donc on ne veut plus de ce système. On veut qu'ils dégagent tous et qu'ils nous laissent reconstruire notre pays. Nous, spécialement les femmes.
Nassira Dutour, elle répondait à Nadine Epstein. Elle manifeste aujourd'hui comme beaucoup d'Algériens, malgré la fatigue du ramadan, malgré aussi les nombreuses arrestations par la police. Ce matin, les forces de l'ordre ont embarqué des dizaines de personnes à Alger. Une femme russe pour diriger le siège européen de l'ONU, Tatiana Volovaya, docteur en économie, ancienne journaliste et diplomate, arrive à la tête du bureau de Genève au moment où la Russie accroît son influence aux Nations Unies là-bas. Et alors que les États-Unis y sont moins actifs, Donald Trump n'a pas nommé pour l'instant d'ambassadeur onusien à Genève et a retiré les États-Unis du Conseil des droits de l'homme.
Il est 18h08 sur France Inter, la suite du journal d'Amélie Perrier avec une devinette. On va dire que près de 4 foyers sur 10 en utilisent.
Ce sont les lingettes pour enlever la poussière ou se démaquiller le visage. Mais ce sont des catastrophes à la fois pour l'environnement, des déchets en plus, et pour notre santé. Alors le gouvernement a décidé de sévir. Bonsoir Lisa Nguyen.
Bonsoir.
Vous avez rejoint. Il a l'intention, le gouvernement, d'appliquer un principe de pollueur-payeur aux fabricants, c'est ça?
Oui, exactement. Parce que les lingettes, aussi pratiques soient-elles, sont faites de plastique avec des matériaux proches des mégots de cigarettes et elles sont imbibées de toutes sortes de produits. Elles ne peuvent donc pas aller dans la poubelle jaune. Pire encore, de nombreux Français continuent à les jeter dans les WC, ce qui bouche les canalisations en plus de polluer les eaux. Le gouvernement veut donc obliger les industriels à s'occuper du problème en créant une filière REP pour responsabilité élargie du producteur. En clair, l'idée c'est que les fabricants financent à la fois le tri, mais aussi la sensibilisation du public et l'éco-conception de leurs produits. Tout ça fait partie du projet de loi anti-gaspillage. Il sera présenté dans la première quinzaine de juillet. Le dossier est aux mains de la secrétaire d'État Brune Poirson, qui compte d'ailleurs faire appliquer ce principe de pollueur-payeur à d'autres, à d'autres filières. Il y aurait notamment les articles de sport, mais aussi les jouets, le matériel de jardinage, certains objets ménagers, sans oublier, et ce sera sans doute le plus gros dossier, l'industrie des cigarettes.
Merci Lisa Guy. Et justement s'en griller une sur la plage au soleil, eh bien c'est fini à Marseille. La ville vient de prendre un arrêté pour interdire le tabac sur 3 plages, celles de Borély, Bonnevieille et Pointe-Rouge, avec cet objectif environnemental et également sanitaire pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. À Paris, la mairie vient aussi d'interdire de fumer dans 52 parcs de la capitale à partir de la semaine prochaine. Lui ne manque pas de souffle. Roger Federer a régalé ses fans à Roland-Garros cet après-midi, qualifié le Suisse pour les 8e de finale. Il a battu le Norvégien Casper Ruud en 3-7. Belle opération aussi pour le Français Benoît Paire. Il va en 8e de finale. Lucas Pouille, lui, quitte Roland-Garros au 2e tour. Il n'a pas pu prendre le dessus face au Slovaque Martin Klizan. Et on retrouve notre journaliste installé là-bas pour la quinzaine, Fabrice Abgral. Bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Mahut et Corentin Moutet sont en ce moment en train de jouer pour une place en 8e de finale.
Oui, ce serait une première pour ces deux joueurs français. L'un est un espoir, Corentin Moutet. L'autre ne l'est plus. C'est Nicolas Mahut, âgé de 37 ans. Il est opposé à un Argentin, Leonardo Meyer, 68e joueur mondial. Et il s'accroche, Nicolas Mahut. 1-7 partout entre les deux joueurs. Le premier pour Nicolas Mahut, 6-3. Le deuxième pour Meyer, au tie-break, 7 points à 3. Et 4 jeux à 3 pour l'Angevin dans la troisième manche. Leonardo Meyer est actuellement au service. Le vainqueur de ce match affrontera en 8e de finale, vous l'avez dit, Roger Federer. L'autre français, c'est Corentin Moutet, l'espoir du tennis français, 20 ans, 110e mondial. Lui aussi, il est opposé à un Argentin, Juan Ignacio Landero. Mais là, ça se passe un peu moins bien, puisque Corentin Moutet est mené 2-7-1. Alors certes, le français a remporté le premier set 6-2, mais il a perdu les deux suivants, 6-3, 6-4. Et 2-1 pour Moutet dans le quatrième set.
Merci Fabrice Abgral, vous nous faites vivre Roland Garros jusqu'à la finale. C'est vendredi, et avant de vous laisser pour le week-end, le service culture d'Inter vous donne sa prescription. C'est une BD ce soir qui donne soif. Rome, héritage aux éditions Robinson. Une épopée de l'alcool des îles. Tristan Rouleau et Matteo Guerrero nous embarquent pour la Martinique du XVIIe siècle dans une plantation de canne à sucre. Une histoire du Rome liée intimement à celle de l'esclavage que Jacqueline Petros a aimé sans modération.
1690, Jean et le père là-bas embarquent pour la Martinique. Jean est l'un des derniers blancs à partir avec un contrat spécial. L'esclavage pendant 36 mois, puis la liberté et une terre. Le père là-bas, herboriste, rejoint lui la communauté des moines pour faire fructifier la canne à sucre. Mais Jean affronte un maître brutal et subit le sort de ceux que l'on tue à la tâche pour le profit. Tristan Rouleau.
Le but est d'implanter la canne à sucre, qui n'était pas du tout une plante locale, hein. D'où l'arrivée des esclaves, que tous les Indiens étaient sacrifiés, soit parce qu'ils n'arrivaient pas à se plier à l'autorité, soit parce qu'ils ne supportaient pas finalement ce travail très très dur. En 1640, il y avait 1000 esclaves noirs en Martinique, et à la fin de ce siècle, donc 1696, ils étaient déjà 15 000.
Quant au père là-bas, plus humain parce que réaliste, il est le premier à distiller ce breuvage âpre qui aide les hommes à tenir.
Le tafia, le brûle-ventre, tout ça était déjà répertorié dans certains écrits de prêtres, etc. Mais lui, c'est un scientifique. Il va arrêter de faire du rhum à partir de déchets finalement, et il va commencer à faire ça à partir de sucre de canne, et il va rationaliser la production.
Les dessins colorés et puissants de Guerrero et le scénario humaniste de Rouleau nous embarquent pour une formidable saga, et si le rhum est à boire avec modération, cette BD, elle, est à consommer à volonté.
Rome, héritage, le premier tome de Tristan Rouleau et Matteo Guerrero, c'est publié aux éditions Robinson et c'était le conseil de notre service culture pour le week-end.
Merci beaucoup pour ce conseil et pour ce journal, Amélie Perrier.